France Culture, il est 23h, les voies de l'imaginaire s'ouvrent à vous. Rien n'est trop beau, rien n'est trop fou, tout est possible.
Creation on Air.
Bonsoir. Quand Keiko Kurdi a appris la catastrophe de Fukushima, elle a aussitôt pris avion et caméra pour réaliser un web-documentaire, Yonaoshi 311, Au-delà du nuage. Actuellement, elle s'intéresse à ceux qu'on nomme les liquidateurs de la centrale. Cet été 2015, Amandine Casadamon a pris elle avion et appareil d'enregistrement pour capter l'invisible. Une composition sonore sous le signe de Césium 137 avec microphone et compteur Geiger. Field recording et réflexion autour d'un événement qui a transformé une partie du monde pour 100 000 ans. D'un côté, chez les humains, perte d'emploi, divorce, cancer, maladie mentale et suicide en forte hausse. De l'autre, une nature comme indestructible, dans un silence à peine troublé.
Toute ressemblance avec des personnes ou des situations vraies ou ayant existé n'a rien d'une coïncidence. Tout cela est pleinement volontaire. Mars 2011, 14h46. Pendant une minute, la Terre tremble avec une intensité de 9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre est situé dans le Pacifique, à 130 km de Sendai, nord-est du Japon. Au même instant, à 300 km de Sendai, Tokyo. Les buildings dansent, se tordent, le sol est mouvant, la ville devient élastique, son visage se déforme. Une minute, hors temps. À 15h50, la première vague du tsunami frappe violemment la côte nord-est du Japon. Au total, trois vagues d'une vingtaine de mètres de hauteur vont s'abattre sur la côte. Trois vagues noires pétrole, emportant avec elles bateaux, voitures, maisons, usines et rayant de la carte des villes entières. Les survivants, revenus sur les lieux peu de temps après la catastrophe, se souviennent. Des corps d'enfants pendant aux branches des arbres et ceux de familles entières au visage blanc et figé, enfermés dans leur voiture, après avoir tenté de fuir la vague. Tout cela est bien visible, ce qui va suivre ne l'est pas.
Thank you.
魚は塩をいっぱい振ってください。じゃあ皮も入れちゃうんだよ。じゃあ釜はでしょ、塩と胡椒、
はい、
塩胡椒で釜は。で後でバーベキューソース。魚は塩。あとはあのおにぎりです。焼きおにぎり。
焼きおにぎりだね。
12 décembre 1952, Canada, Chalk River. Accident entraînant, risque extérieur. 10 octobre 1957, Royaume-Uni, Windscale. Accident entraînant, risque extérieur. 13 octobre 1969, France, Saint-Laurent-des-Eaux. Accident. 22 février 1977, Tchécoslovaquie, Jaslovské Bohunice. Accident. 28 mars 1979, États-Unis, centrale nucléaire de Three Mile Island. Accident entraînant risque extérieur. 13 mars 1980, France, Saint-Laurent-des-Eaux. Accident. Accident. 23 septembre 1983, Argentine, réacteur expérimental, Buenos Aires. 26 avril 1986, Ukraine, Tchernobyl, accident majeur. 6 avril 1993, Russie, Tomsk, accident. 11 mars 2011, Japon, centrale de Fukushima, accident majeur.
Il n'y a rien de pire que de travailler avec un masque intégral en été. C'est à la limite du supportable. Quand vous portez un masque intégral 8 heures chaque jour, vous vous sentez suffoqué, la fatigue s'accumule. Les équipements de protection comme les masques intégraux entravent les mouvements et contribuent aussi à retarder l'exécution des opérations.
Les radiations n'ont pas d'odeur, pas d'image, pas de chair. On ne peut pas les toucher, les sentir ni les voir. Un fléau diffus. La plupart des atomes radioactifs émettent une combinaison de rayons gamma, bêta et alpha. Les rayons alpha sont les plus destructeurs, capables de traverser l'épiderme. Si ces rayons pénètrent l'organisme, si par exemple un atome de plutonium se fixe sur les os, l'organisme sera endommagé de façon considérable. Pratiquement toutes les molécules seront affectées et l'organisme recevra une dose de radiation élevée. Pas d'odeur, pas d'image, pas de chair. Nous sommes face à un mal invisible. Pas de dose inoffensive. Il n'existe pas. Il n'y a pas de valeur minimale en dessous de laquelle les radiations n'auraient aucun effet.
En fait, nous sommes exposés à la radioactivité à longueur de journée. Même en dehors des moments où nous sommes équipés d'un dosimètre. Même un robot spécialement conçu pour opérer sur un site hautement radioactif finit tôt ou tard par s'effondrer. Parce que son microprocesseur s'abîme à cause des rayonnements. Un deuxième robot est alors envoyé pour aider le premier. Mais il tombe aussi en panne. Finalement, on est obligé d'envoyer un humain pour les récupérer.
Thank you.
Il faut 240 000 années pour se débarrasser totalement du plutonium et 300 ans du césium-137. C'est certainement pour cette raison que la Finlande est en train de construire un sanctuaire de déchets nucléaires pour l'éternité. Une ville habitée par des déchets mortels, une ville sous scellée, cachée sous la terre, une ville poison dont il ne faudrait jamais ouvrir les portes au risque de voir se répandre un mal mortel. Un jour, un professeur de l'université de médecine de Fukushima déclare
« Si vous souriez, les méfaits des radiations ne vous atteindront pas. »
Ce à quoi répond le maire de Futaba
« Je crois qu'il a tort. Ils utilisent la spiritualité pour cacher la vérité. »
Monsieur Katsukatai d'Ogawa, maire de la commune de Futaba, a dit aussi
« J'ai un kyste à la thyroïde. Si je ne peux pas vivre 5 ans de plus, ce sera lié à la radioactivité. » Permettre aux gens de vivre dans de telles zones contaminées est une violation des droits de l'homme.
irradié. Ceux qui opèrent aujourd'hui sur le site de Fukushima étaient auparavant chauffeurs de bus ou poissonniers et ont perdu leur travail à cause de la catastrophe nucléaire. Finalement, peu d'ouvriers sont dotés des compétences nécessaires pour réaliser ces travaux. La majorité des erreurs qui sont commises auraient sans doute pu être évitées si les nouvelles recrues avaient été formées. Nous sommes face à une insuffisance de ressources humaines et financières, à un calendrier tendu. Il ne serait pas étonnant qu'une catastrophe se reproduise. Je ne touche que 140 000 yens, 1059 euros par mois. Et je ne touche même pas d'allocation spéciale dédiée aux travaux dangereux. En cas de contamination, il faut se présenter à un bureau situé au deuxième étage du bâtiment parasismique. Le comble, c'est que le travailleur contaminé doit, dans son rapport à TEPCO, s'excuser d'avoir été irradié.
Il n'existe pas de dose inoffensive de valeur minimale en dessous de laquelle les radiations n'auraient aucun effet.
Un grave accident sur le site militaire soviétique de Kistim, révélé 30 ans après, aurait fait plusieurs centaines de morts, des suites de maladies liées aux radiations. 17 octobre 1969, fusion partielle, sans conséquence, du réacteur de la centrale à gaz de Saint-Laurent-des-Eaux, après une erreur de chargement du combustible, Loir-et-Cher. 28 mars 1979, fusion partielle du cœur du réacteur de la centrale de Three Miles Island, aux États-Unis, qui provoque une fuite de gaz et évacuation de la population. 7 août 1979, une explosion dans une installation de réparation minérale et solaire. 1 millier de personnes à la dose annuelle.
la centrale de Fukushima Daiichi était conçue pour résister à un séisme de magnitude 7, alors que le 11 mars 2011, le séisme était de 9 sur l'échelle de Richter.
Depuis l'accident, mon ADN a changé.
Soixante mille Japonais ont perdu leur logement suite à une série d'événements, séismes, tsunamis, accidents nucléaires. Parmi eux, 160 000 sont des évacués du nucléaire.
Le lendemain du tsunami, les haut-parleurs de la commune nous ont donné l'ordre d'évacuer à cause des radiations. Avec mes parents, nous nous sommes enfuis à bord de camions de l'armée.
120 000 réfugiés du nucléaire sont officiellement enregistrés comme tels. 100 000 yens, soit 725 euros, c'est le montant des indemnités versées par mois aux exilés du nucléaire. Fin probable, d'ici 2 ans. Fin mai 2015, une enquête menée auprès de 16 000 réfugiés du nucléaire par un professeur de l'université de Waseda, à Tokyo, a révélé que 40% d'entre eux souffraient de stress post-traumatique et d'angoisse de mort face au nucléaire.
Alors...
La zone interdite, située sur un rayon de 30 km autour de Fukushima Daiichi, a été rebaptisée par les autorités en 3 catégories. Zone de préparation à l'annulation de la directive de l'évacuation. Zone de restriction de résidence. Zone de retour difficile. Ces changements d'appellation ont pour but de préparer la population à retourner chez elle et à gérer elle-même ses propres taux d'exposition à la radioactivité. La population des régions hautement contaminées est confrontée à diverses problématiques sociales et économiques. perte d'emploi, divorce, cancer, maladie mentale et suicide en forte hausse. Comment peut-on vendre une terre, une maison sur un territoire avec un taux de radioactivité important ? Qui l'achèterait ? TEPCO ? Pour stocker des déchets radioactifs ? Comment faire lorsque l'on a construit sa vie dans une région prospère qui devient subitement une région sinistrée ? L'argent, le lien à la terre, la famille pousse un grand nombre de Japonais à rester dans la région. Tous savent ce à quoi ils sont exposés et les risques qu'ils encourent. Peut-on résister à la haute technologie, à l'idée de superpuissance, à un monde toujours plus performant, au luxe ? Comment s'extraire d'un confort considéré comme acquis ? Comment renoncer à ce paradis technologique ? Les exigences se déplacent, ce qui était un luxe il y a 30 ans est devenu la base aujourd'hui, la norme. Et les forêts de Fukushima, comment les décontaminer? Que fait-on des forêts? Quel est le taux de radioactivité en forêt? À partir de combien de millisieverts peut-on se balader en forêt?
J'aurais pas dû mettre le pompe.
À partir de combien de millisieverts revient-on chez soi?
Ok.
Les exilés du nucléaire deviendront-ils les kamikazes du nucléaire? En même temps, ont-ils vraiment le choix?
Chaque jour, TEPCO déverse 300 tonnes d'eau pour refroidir les barres de combustible. Cette eau radioactive est stockée dans d'immenses cuves où l'étanchéité est remise en doute. Les cœurs de trois réacteurs, inaccessibles, ont fondu et ont traversé la première enceinte de confinement. Le corium se dirige lentement vers la nappe phréatique. Peut-être l'a-t-il déjà atteinte. Fukushima Daiichi est fissuré. Que se passera-t-il en cas de nouveau séisme ?
Ici, là, j'étais à 0,8. Je suis plus proche de la forêt. Je pourrais monter plus.
Doit-on se brûler gravement pour réaliser un danger ? Craint-on uniquement ce qui est palpable ? Cela est-il lié à l'idée de maîtrise, de contrôle ? Est-il plus facile d'être dans le déni quand l'humanité est en péril ? Lorsqu'il est déjà trop tard, quand les choses sont enclenchées, nous sommes liés au nucléaire pour l'éternité. La radioactivité est indestructible. Peut-être n'aurions-nous dû jamais commencer.
Hey, hey, Paula, I wanna marry you. Hey, hey, Paula.
Juillet 2015. Une histoire vraie, inspirée de la réalité. C'était Césium 137, une histoire vraie d'Amandine Casadamon. Merci à Ryoko Saito, Monem Bekri, Ryoji Kurihara, Shoichiro Shimatani, Janik Magne, Miyuki Ito, Chahata Kurihara, Jean-Luc Como, Gerwan Tranvenji et la Crirad. Coordination, Inès De Bruin et Alice Rameau. Prise de son, Régis Nicolas et Manuel Couturier. Bruitage, Elodie Fiat. Mixage, Bruno Mourlan. Une réalisation d'Amandine Casadamon et Angélique Thibault. Ressemblance avec des personnes ou des situations vraies ou ayant existé n'a rien d'une coïncidence. Tout cela est pleinement volontaire. 31 juillet 2015, TEPCO met en ligne ses dernières statistiques. 44 531 personnes ont travaillé à la centrale de Fukushima Daiichi. Parmi eux, 39 953 sont des sous-traitants. La dose prise par les sous-traitants varie en moyenne de 0,6 millisieverts à 10,7 millisieverts. Tous ces chiffres sont revus à la hausse. Août 2015, trois ouvriers de la centrale trouvent la mort. L'un d'entre eux travaillait près des eaux radioactives. 9 septembre 2015, un travailleur sous-traitant a été trouvé inconscient dans les toilettes du bâtiment de gestion de la centrale de Fukushima. Diagnostic, arrêt cardio-ventilatoire. Sa mort sera confirmée 3 heures plus tard. Taux d'irradiation, inconnue. TEPCO nous indique que l'eau de pluie du site de la centrale de Fukushima Daiichi est recueillie dans un bassin de 2 mètres de profondeur, 800 mètres de longueur et 2 mètres de largeur. Pour éviter que cette eau aille directement dans l'océan, TEPCO a mis en place 8 pompes pour la rediriger vers le port devant la centrale. Comme il y a des barrières dans le port, TEPCO prétend que la contamination y reste piégée et ne va pas au large. Cependant, nous savons aussi que le port n'est pas étanche et que les fortes pluies peuvent entraîner des débordements. 8 septembre 2015, le typhon Eto traverse l'île de Honshu. Le 9 et 10 septembre, de violentes pluies s'abattent sur toute la côte est du Japon, provoquant de nombreuses inondations. Plus de 100 000 personnes reçoivent l'ordre d'évacuer. À la suite de cela, des sacs de sol et de débris contaminés ont été dispersés. La plupart de ces sacs entreposés se trouvent à proximité de la mer et des rivières. Et l'on ne connaît pas le nombre exact de sacs dispersés et probablement ouverts. 14 septembre 2015, TEPCO annonce officiellement le rejet de 850 000 tonnes d'eau radioactive dans l'océan.
Demain, dans Création On Air, place au Velvet Underground et Andy Warhol par Thierry Planel. Vous écoutez France Culture et tout de suite, Les Nuits.